Tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Melode. Et je suis ravi de vous retrouver après cette petite pause de vacances d'hiver, et bien pour de nouvelles aventures métal qui vont être riches aujourd'hui, puisqu'il y a eu beaucoup de sorties là pendant les 15 derniers jours. Donc on va profiter de cette émission pour faire le point sur tout ça. Il y a eu des gros trucs qui sont arrivés. Alors les sorties de ces deux derniers vendredis, trois en comptant celui-ci, vont s'étaler sur plusieurs émissions. Je procède par sélection et aujourd'hui on va s'intéresser, on va dire, à quelques poids lourds. Alors ça va être assez varié hein, niveau style, puisqu'on aura du hard rock, on aura des choses un peu plus trash hardcore, on aura du heavy bien moderne, on aura du hard rock à la sauce 80s, du doom également, du black. Enfin vous allez voir, c'est assez riche et varié. J'espère que vous allez trouver là encore une fois de quoi mettre dans vos petite playlist pour ce week-end. Il nous faut de la musique en ce moment, ça fait du bien parce que l'actualité est quand même très très morose, donc voilà, on va se réconforter en écoutant une heure de métal. Et on va commencer par l'unique sortie que j'ai sélectionnée pour ce 13 mars. Il s'agit du groupe suisse Gotthard qui sort aujourd'hui un album intitulé tout simplement 13, donc 13. Hein. C'est normal, on est le vendredi 13, c'était le jour rêvé pour sortir ce nouvel album. Alors Gotthard, c'est un groupe donc originaire de Lugano qui existe depuis 1992. Il a été créé par le chanteur Steve Lee et le guitariste Léo Leoni, et très vite ils vont être rejoints par un autre guitariste qui s'appelle Freddy Scherer, par un bassiste qui s'appelle Mark Lynn et par le batteur Eina Abager, sans oublier Chris Van Roor du groupe Crocus, qui est un autre fleuron du hard rock suisse, qui est en quelque sorte un mentor hein, pour Gotthard. Il a coécrit et produit pas mal de leurs albums, et ce line-up là, eh bien il n'a connu qu'un seul et unique changement après le décès tragique de Steve Lee, qui depuis est remplacé par Nick Mader. Donc Gotthard, eh bien c'est un mélange de hard rock et puis de heavy metal mélodique. Ils vont rencontrer le succès en Suisse et en Allemagne dès la sortie du premier album éponyme qui arrive en 92. Un succès qui va se confirmer avec les albums Die All Hard en 94, G en 96, et un succès qui s'élargit d'abord au Japon, qui compte d'ailleurs beaucoup beaucoup de fans du combo, et puis ensuite ça va encore s'élargir à partir de l'album Open en 99. Alors là le groupe va commencer à évoluer vers un son plus pop rock, comme vont en témoigner Home Run en 2001, Human Zoo en 2003, et ils vont finalement revenir à quelque chose de plus hard rock, de plus puissant avec Need to Believe en 2009. Ce sera malheureusement le dernier album où apparaît le chanteur Steve Lee, puisqu'il va perdre la vie dans un accident de moto aux États-Unis en 2010. Alors malgré ce drame, Gotthard va décider malgré tout de continuer l'aventure. Ils vont donc recruter Nick Madder, qu'on découvre sur l'album Firebirth en 2012. Et bah, l'intégration de ce nouveau vocaliste, ça va être une belle réussite. On peut dire qu'il a succédé à Steve Lee avec beaucoup de talent et surtout beaucoup de respect, comme en témoignent d'ailleurs les albums Bang parus en 2014 et puis Silver en 2017. Et d'ailleurs, si ces deux derniers albums étaient plutôt réussis, certains fans du combo regrettaient quand même un petit peu la grande époque de Gotthard, ben celle de Die All Hard, celle de G aussi. Un regret que les Suisses ont visiblement pris en compte avec ce 13e album qui est forgé un peu à la façon ben, de ces fameux disques qui ont fait la renommée du groupe, avec des morceaux bien hard heavy qui sont rentrés dedans, des titres rock bien enlevés, bien sentis, et puis aussi quelques ballades qui sont taillées pour nous faire chavirer. Alors, il faut aussi signaler que Gotthard nous offre une petite surprise puisqu'ils reprennent, et de façon brillante je dois dire, à leur sauce SOS, qui est un tube du groupe ABBA. Encore eux, on en parle très souvent en ce moment et on va encore en parler tout à l'heure, vous allez entendre ça plus tard. Et ce morceau-là, alors là, il prend une toute nouvelle dimension. Que vous dire de plus? Si, je voulais signaler que ce nouvel album, il a été produit par un Américain, par Paul Laney, en coproduction avec Léonie. Et Paul Laney, il a su parfaitement conserver l'ADN du combo, tout en lui offrant un son bien actuel. Alors, faut dire que Paul Laney, c'est une vieille connaissance du groupe, puisqu'il avait justement travaillé à l'époque sur le mixage des albums G, Open, Home Run et Human Zoo. Donc voilà, il les connaissait bien et il savait vraiment quel son il leur fallait. Donc, alors, je sais pas si ce 13e album intitulé 13 qui sort en ce vendredi 13 va porter chance au groupe. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que ce disque va figurer parmi les très bons crus de la discographie de Gotthard. On en écoute tout de suite un extrait avec un titre bien hard rock qui s'appelle Mysteria. C'est tout de suite, c'est sur Mike FM. I'm gonna fly and stop crawling. It's just one. Un petit Gotthard pour se mettre en forme dans cette émission Check Me Load. C'était le titre Mysteria, extrait du nouvel album du groupe qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle 13. Mysteria, qui est un titre qui au début fait un petit peu d'œil à la musique de Mirat avec cette petite ambiance orientale. Et puis ensuite, qui peut rappeler un peu quelques très bons titres de Def Leppard. C'est un des très bons morceaux de cet album de Gotthard que je vous conseille bien évidemment, qui est très réussi. Et on voit que les Suisses, ils ont encore une belle inspiration. Ça tourne pas en rond. Alors c'est pas hyper révolutionnaire, mais c'est bien foutu et c'est bien là le principal. Gotthard, donc ça sort aujourd'hui. Vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Check Me Load. On va changer radicalement de style. On va quitter la Suisse pour aller du côté de la Californie maintenant pour parler du nouvel album de Body Count, qui est une des grosses sorties de ces 15 derniers jours. C'est un album qui est arrivé dans les bacs vendredi dernier, le 6 mars, qui s'appelle Carnivore. Alors Body Count, groupe donc de Los Angeles, né il y a pile 30 ans, c'était en 1990. Il a été créé entre autres sous l'impulsion du rappeur Ice-T, qui en plus d'être connu en tant que chanteur est également connu en tant qu'acteur, on l'a vu dans quelques films. Et puis surtout, depuis 20 ans, c'est lui qui joue l'inspecteur Totiola dans la série TV New York Unité Spéciale. Alors Ice-T, il a pas fondé Body Count tout seul, à l'époque ils étaient 7. Malheureusement, il y en a 3 qui sont décédés. Il s'agit du batteur Beatmaster V, qui est mort d'une leucémie en 96, du bassiste Mooseman, qui a été abattu au cours d'une fusillade en 2001, et puis du guitariste D-Rock, qui lui est mort d'un lymphome en 2004. Concernant les deux autres membres fondateurs qui sont eux encore à ce jour aux côtés de Ice-T dans Body Count, il s'agit de Ernie C à la guitare et de Sean Ishan, qui lui s'occupe de tout ce qui est programmation et sample. Donc Body Count, c'est quoi? C'est tout simplement un punk hardcore à tendance rapcore, à tendance très très trash aussi. Alors rapcore, style très populaire dans les années 90 et puis au début des années 2000, un des fers de lance les plus célèbres de ce mouvement, c'est Rage Against the Machine, dont on reparle beaucoup ces derniers temps grâce à leur reformation. Dans la même lignée, on pourrait également citer les excellents Face No More, mais justement là où se distingue Body Count, c'est par son côté hardcore et puis trash qui est quand même très très présent. Alors c'est en 91, durant la toute première édition du célèbre festival Lollapalooza, que Body Count va être présenté au public, juste avant la sortie de son premier album qui s'appelle Cop Killer, qui lui va arriver en mars 92. Le disque, il contient un morceau qui s'appelle également Cop Killer, sur lequel le groupe dénonce de façon très virulente le comportement des forces de l'ordre de Los Angeles, particulièrement envers les personnes noires. Et c'est un morceau qui va vite s'attirer les foudres des dirigeants américains de l'époque, le président Bush en tête de liste. L'album va être tout simplement retiré des ventes. Il sera finalement réédité dans une version, si j'ose dire, plus polissée, sous le titre de Body Count, et bien sûr dans une version dans laquelle la chanson Cop Killer va tout simplement être retirée. Et pourtant, c'est ce morceau-là qui demeure à ce jour le plus célèbre du groupe. Quant à l'album, à l'époque, jusqu'à maintenant, il s'en écoule plus de 480 000 exemplaires. Alors la suite de la carrière de Body Count, elle sera marquée par la sortie de 3 autres albums. Il y aura Born Dead en 94, Violent Dismise, The Last Days en 97, Murder for Hire en 2006. Mais le succès est quand même loin d'être au rendez-vous par rapport au premier album. Et le groupe se sépare d'ailleurs en 2006, la même année que le dernier album. Ils vont pas être séparés très longtemps puisqu'ils vont se reformer en 2009, du moins pour ce qui est de la partie scène, parce que niveau studio, faudra attendre 2014 pour voir Ice-T et sa bande réapparaître dans les bacs avec un album qui s'appelle Manslaughter, qui sera suivi du furieux Bloodlust, qui lui est paru en 2017. Et donc la suite logique de ces deux albums de la résurrection, c'est cet excellent Carnivore qui est sorti avec Fracas vendredi dernier. Le gang de Los Angeles a beau afficher 30 ans de carrière au compteur, il est toujours aussi vénère. Et il nous le fait savoir dès le premier titre, où résonnent d'ailleurs les sirènes de police, petite référence à sa discographie. Alors, on est entre thrash metal bien lourd, bien massif et hardcore incisif. Ce nouvel album de Body Count, il est intense et percutant, comme l'était Cop Killer. Par contre, allez pas imaginer pour autant que Ice-T nous livre là un copier-coller, parce que Carnivore contient aussi son lot de surprises, parmi lesquelles quelques invités. On a Riley Gale, du groupe Power Trip, on a également Jamie Jastad du groupe Hatebreed, ou encore Emily, la chanteuse du groupe Evanescence, qui, elle, fait un sublime featuring qui est très surprenant, qui mélange rythmique hardcore et incantation gothique, et ça aurait pu être totalement foireux, et c'est totalement réussi. Sans oublier un petit hommage de Body Count à Lemmy Kilmister, avec une reprise bien enlevée de Ace of Spades, qu'on écoutera d'ailleurs en toute fin d'émission dans la rubrique Sortez Cover. Conclusion, Carnivore, c'est un album qui tabasse. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau titre Carnivore. On écoute Body Count. Count sur Back FM dans l'émission Check Melod. Vous venez d'écouter le titre Carnivore, extrait de l'album du même nom paru vendredi dernier. Là, on a écouté un morceau bien punky, bien trashy, Body Count, là, qui n'hésite pas à flirter avec des influences à la Slayer sur cet album-là. C'est très, très, très réussi, je vous le conseille, d'autant plus si vous aviez aimé Bloodlust, si vous aviez aimé Manslaughter, normalement, il n'y a pas de souci, vous allez kiffer ce Carnivore, tout frais, tout chaud de la semaine dernière. Et puis une semaine plus tôt, le 28 février, c'est un autre poids lourd de la scène américaine qui faisait son retour dans les bacs, Five Finger Death Punch, donc qui sortait l'album F8 ou F8 ou Fate, vous le prononcez comme vous voulez, en tout cas ça s'écrit F8. Alors, Five Finger Death Punch, c'est un groupe qui est originaire de Las Vegas, dans le Nevada, qui est né en 2005. C'est le guitariste d'origine hongroise Zoltán Báthory qui en est à l'origine, mais c'est le tumultueux chanteur Ivan Moody qui en est le leader. Et si vous vous posez la question, eh bien sachez que le nom de Five Finger Death Punch, c'est une référence au cinéma de Kung Fu hongkongais. Alors c'est quoi comme style Five Finger Death Punch ? Eh ben on peut dire que c'est du heavy metal 2.0, c'est-à-dire du heavy metal moderne qui puise ses influences aussi bien dans le heavy traditionnel que dans le thrash, le metal alterno, le groove metal, voire le metalcore. Le heavy metal de Five Finger Death Punch, il est à la fois massif et mélodique. Alors on peut dire que le groupe est devenu une superstar de la scène metal américaine dès le début de sa carrière, puisque ses trois premiers albums vont connaître un très large succès aux États-Unis. Ces trois albums que on va découvrir nous un peu plus tard sont The Way of the Fist, sorti en 2007 si je dis pas de bêtises. Il y a eu ensuite War is the Answer en 2009 et puis American Capitalist en 2011. D'ailleurs, Five Finger Death Punch va pas mettre très longtemps à se bâtir une très solide réputation à travers le monde et même dans notre hexagone où les médias vont pour ainsi dire unanimement saluer les deux volumes de l'album The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell qui sont parus en 2013. Et d'ailleurs, il faut souligner que le public français répondra largement présent lorsque les Américains vont se produire dans un Bataclan archi-complet ou encore sur la scène du Hellfest en 2015. D'ailleurs, ce passage au Hellfest, il va intervenir juste quelques semaines avant la sortie de l'album Got Your Six, qui sera lui synonyme de consécration pour le combo de Las Vegas. C'est donc un avenir radieux qui s'annonçait alors pour le groupe, du moins jusqu'à ce que l'alcoolisme du chanteur Ivan Moody ne lui fasse totalement péter un câble, obligeant le groupe à se mettre sur la touche le temps qu'il puisse suivre quand même une petite cure de désintox. Heureusement, Moody va être de retour à temps pour enregistrer Injustice for None, ce qui est paru en 2018, un septième album à travers lequel Five Finger Death Punch dresse un portrait sombre et cynique sur la situation du monde et de la société. Et si quelques haters ont alors reproché à Five Finger Death Punch de nous livrer avec cet album-là des titres parfois trop convenus, personne pourra leur reprocher de ne pas le faire avec talent, une affirmation qui est d'ailleurs encore une fois valable pour ce nouvel album qui est F8, 8 parce que c'est le 8e album du groupe, F8 parce que c'est la touche qui permet de démarrer un ordinateur en mode sans échec, mais aussi parce qu'en lead speaking, F8, ça se prononce Fate, le destin en anglais, et de destinée, il en est souvent question dans les chansons de Five Finger Death Punch. Il faut dire qu'Yvon Moody a pas son pareil pour nous brosser des portraits touchants, cyniques ou acerbes, avec sa voix profonde et limpide qui peut se faire aussi hargneuse qu'émouvante. Et c'est encore une fois tout ça qu'on retrouve dans Fate, ou dans F8 comme vous voulez, qui s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs avec des compos toujours aussi brillantes et efficaces. Alors, évidemment, il n'y a aucune révolution à l'horizon chez Five Finger Death Punch, mais des fois, rester en terrain connu, ça fait aussi du bien. Alors on va en profiter, on va en écouter un extrait de ce très réussi Fate qui, je pense, ne mettra cette fois encore pas la machine Five Finger Death Punch en échec. Voici le morceau Inside Out. Nothing I say and nothing I feel is right. Even if you wanted to, you couldn't understand. While I'm sitting up here dying, you're just holding out your hand. And even if I wanted to, I couldn't have explained. Cause you don't know the difference between violence and pain. There's no denying it. We'll be right back.
stand alone. Guess I knew it all along. Yes, I knew that you were wrong. How you left when I was down.
I want you to say it was never really me. You just turned and walked away. How you turned me inside out. Inside out. Inside out.
Five Finger Death Punch sur Back FM dans l'émission Check Melode. Vous venez d'écouter un extrait de l'album F8 ou F8 comme vous voulez, qui est paru le 28 février et c'était le titre Inside Out sur les 106.1 de Back FM. Five Finger Death Punch, voilà, qui est toujours aussi impérial et qui n'a rien perdu ni de sa puissance ni de sa solidité. Il y a aussi quelques très jolies ballades sur cet album qu'il faut découvrir absolument. D'autant plus que là, par les temps qui courent, il y aura plus beaucoup de concerts, donc il va falloir se rabattre vraiment sur la musique studio. Heureusement, on a plein de bonnes choses qui sortent actuellement et on va pouvoir se faire plaisir, même au pire si on nous confine, on aura toujours la musique pour nous accompagner. On va se prendre une petite confiserie maintenant au bon goût des années 80. On va parler d'un groupe que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens aiment, que beaucoup n'aiment pas avouer qu'ils aiment. C'est The Nightlight Orchestra qui a sorti le 6 mars un nouvel album intitulé Aromantic. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que The Nightlight Orchestra ? C'est un groupe suédois qui est originaire de Helsingborg, qui a été créé en 2007, et bien par des musiciens qui ne sont pas des inconnus, puisque c'est l'œuvre de deux membres du groupe de death melodic Soilwork. D'une part, le charismatique chanteur Björn Strid, et d'autre part, le guitariste David Anderson. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une tournée aux États-Unis avec Soilwork que les deux musiciens vont se découvrir une passion commune pour le classic rock des années 70 et 80, et donc ils vont décider de se lancer ensemble dans un nouveau projet musical qu'ils vont baptiser The Nightlight Orchestra, et bien dans lequel on découvre un Björn Strid dans un registre bien différent de celui de Soilwork. Le duo est vite rejoint par d'autres musiciens. Il va y avoir d'abord Charlie D'Angelo, le bassiste d'Arch Enemy. Il va y avoir aussi le clavier Richard Larson, et puis le batteur Jonas Kalsbach. Un line-up qui va ensuite être complété par Sébastien Forslund au percu et à la guitare, et puis par les Airlines Anas, qui est un duo de choristes féminins. Donc, The Nightlight Orchestra, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mélange de classic rock, de hard rock et de rock progressif influencé par la fin des années 70 et les années 80. Au début, c'était le début des années 80, mais maintenant, c'est les années 80 dans leur intégralité. Donc, une musique dans laquelle les claviers vintage sont presque omniprésents, le tout sur fond de science-fiction rétro. Si vous voulez, la science-fiction rétro, c'est la science-fiction comme on la concevait à l'époque dans les années 80 finalement, ce qui donne au groupe ce petit côté kitsch qui est parfaitement assumé, voire même revendiqué. En 2012, le groupe sort son premier album, c'est Internal Affairs, et puis il y aura ensuite Skyline Whisper en 2015, deux disques qui, malgré de très bonnes critiques, vont connaître quand même un succès très confidentiel, mais les choses vont changer avec la sortie de l'excellent Amber Galactic en 2017, qui, grâce à sa qualité, mais aussi à sa parution sur Nuclear Blast, qui va susciter l'intérêt des médias, et donc du public, va connaître lui un autre destin, puisque tout le monde va vite succomber au charme suranné de cet hommage aussi réussi que vibrant à une période, alors là, qui s'étale de 77 à 83, qu'on a un peu tendance à oublier, voire à mépriser, mais qui musicalement était quand même extrêmement riche pour la scène rock et hard rock. Un voyage dans le temps qui se poursuit ensuite à travers Sometimes the World and Enough en 2018, alors qui nous plonge cette fois définitivement dans les sacro-saintes années 80 où le synthé était roi. Un quatrième album qui sonne comme un véritable hommage au hard FM de l'époque, mais aussi au maître de la pop qui était à bas, avec des gimmicks et des refrains qui flirtent quand même de très près avec le disco. Et si vous aviez aimé ce voyage dans les 80s à bord de la NFO Airlines Company, ben, je pense que vous devriez succomber assez facilement à Aromantic, qui poursuit le périple en poussant même le curseur un peu plus loin, avec un album encore plus cinématique qui propose notamment des influences tirées, ben, cette fois-ci, de l'univers musical de Giorgio Moroder, qui a signé des bandes originales de films carrément cultes, hein. Alors, il y en a eu beaucoup dans les années 80 d'ailleurs, mais pas que. Et puis parmi les autres influences réjouissantes qu'on découvre comme autant de pépites tout au long du disque, eh bien, bon, il y a toujours l'ombre d'Abba, hein, qui plane jamais bien loin, mais il y a aussi tout un pan de rock progressif qui vont de groupes comme Asia, AIS, en passant par Saga ou même Toto, donc là dans un esprit moins progressif mais plus rock FM. Et puis bah, comme d'hab, The Night Flight Orchestra nous donne un album extrêmement bien réussi, hein, le résultat est vraiment magistral. C'est un album qui surfe sur la nostalgie avec une fraîcheur assez incroyable. C'est une confiserie acidulée qui a le goût du reviens-y. Voici d'ailleurs, pour vous en convaincre, l'imparable Divinyls de The Night Flight Orchestra, et je peux vous garantir que le refrain va vous rester collé dans la tête un bon moment. The Night Flight Orchestra avec son imparable Divinyls, extrait de l'album Aromantic qui est paru vendredi dernier le 6 mars. Et bah, les Suédois, ils sont vraiment extrêmement forts, hein, pour nous faire des mélodies comme ça qui sont immédiates, qui sont imparables. Il y a d'ailleurs les deux plus forts, moi je trouve que c'est The Night Flight Orchestra et puis Ghost, hein, qui a pas son pareil aussi pour nous sortir des petits gimmicks comme ça qui restent immédiatement dans la tête, qu'on a envie d'écouter en boucle et même parfois qu'on écoute en cachette parce qu'on a un peu honte, voilà, d'aimer ce genre de choses qui est quand même très très proche de la pop. Mais quand c'est bien fait, moi je dis qu'il faut pas se mettre de barrière. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant qu'on a pris une bonne dose de bonne humeur, on va se calmer un petit peu, on va aller dans des chemins beaucoup plus sombres, beaucoup plus froids et beaucoup plus tortueux, puisque on va poursuivre ce Check Me Load avec la découverte du nouvel album de My Dying Bride, qui est sorti également le 6 mars, un album qui s'appelle The Ghost of Orion. Alors My Dying Bride, c'est un groupe anglais originaire de Bradford, c'est un groupe qui a également 30 ans, hein, puisqu'il a été créé en 90, par un quatuor de musiciens composé du chanteur Aaron Senthorpe, du guitariste Andrew Cregan, qui sont encore présents à ce jour, ainsi que du guitariste Calvin Robert Shaw et du batteur Nick Mia, qui eux bah, ne font plus partie du line-up. Un line-up qui aujourd'hui compte 6 membres, hein, si je dis pas d'ânerie, dont une femme à la basse. Et oui, chez My Dying Bride, il n'y a pas que des garçons. Alors, leur style, c'est, on peut dire, pour résumer, que c'est du Death Doom gothique avec Anathema et Paradise Lost. My Dying Bride forme en quelque sorte ce qu'on peut considérer comme la triforce du mouvement Doom Death anglais, puisqu'ils en sont tous les trois les pionniers. En 30 ans de carrière, My Dying Bride a sorti 13 albums studio, hein, en comptant celui-ci. C'est un groupe qui va connaître un essor de popularité au milieu des années 90 grâce à deux albums, The Angel and the Dark River en 95 et puis Like Gods of the Sun en 96. Par contre, la sortie de... Alors je vais vous le dire en français parce que en anglais, il faudrait que je réfléchisse un moment, on va perdre du temps, mais la sortie de 34,788% complete en 98 va recevoir un accueil beaucoup plus mitigé. Certains vont en effet peu apprécier l'évolution du groupe vers un son plus avant-gardiste, plus électro, mais ce sera finalement qu'une parenthèse dans la discographie de My Dying Bride, qui va revenir à ses racines Doom Death dès l'album suivant, The Light at the End of the World en 99, qui sera suivi du très réussi The Dreadful Hours en 2001. Depuis, My Dying Bride produit d'autres très belles pièces musicales, comme par exemple les albums A Line of Deathless Kings en 2009, il y a eu également un autre très bon album, c'était For Lies I Sear, et puis sinon les deux derniers, enfin non d'ailleurs c'est pas les deux derniers, mais toujours dans les bons albums, j'ai envie de vous citer A Map of All Our Failures en 2012, et le dernier donc Feel the Misery en 2015. Et donc après 5 ans d'absence, dû notamment à de lourdes épreuves qu'ont subi les membres du groupe, dont la pire est certainement le cancer contre lequel la fille d'Aaron Senthorpe a dû se battre et qu'elle a heureusement vaincu, eh bien ils sont enfin de retour, My Dying Bride, avec ce 13e album qu'est The Ghost of Orion, un disque extrêmement sombre et mélancolique, hanté par la mort et par de nombreux fantômes, mais qui laisse tout de même finalement poindre une lueur d'espoir. C'est en effet la vie, hein, qui finit par triompher ici. Alors vous vous en doutez, The Ghost of Orion, c'est un album qui est né dans la douleur, un sentiment qui prédomine largement, mais dont la beauté des compos laisse entrevoir de la résilience, de la sensibilité et puis un désir profond et puissant d'avancer, même si le chemin est ténébreux. C'est un album qui est doté d'une production à la fois claire, puissante et organique. C'est un album magistral, envoûtant, tout simplement à la hauteur du talent immense de My Dying Bride. On écoute tout de suite un extrait de The Ghost of Orion avec le déchirant Your Broken Shore, tout de suite sur Back FM. We'll be right back. Your Broken Shore de My Dying Bride, un extrait du nouvel album The Ghost of Orion, paru la semaine dernière, le vendredi 6 mars. C'est toujours aussi bien, My Dying Bride, c'est toujours aussi beau et aussi émouvant. Un album que je vous conseille, bien évidemment. Alors ça, ça va pas trop vous remonter le moral, mais bon, voilà, si vous craignez pas un petit peu de mélancolie, c'est très, 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 très beau. Et puis, je vous conseille également, eh bien, tous les albums que je vous ai cités tout à l'heure de cette très belle discographie de nos Anglais. N'hésitez pas aussi à aller jeter une oreille à Anathema, à Paradise Lost, qui étaient au départ dans la même mouvance, et vous verrez que chacun des trois groupes a pris une direction différente, mais chaque groupe propose encore à l'heure actuelle des albums de qualité, donc voilà, une triforce à découvrir ou à redécouvrir. Du côté de la France aussi, on a eu de très belles choses ces dernières semaines, et notamment le 28 février, le nouvel album du groupe Regarde les Hommes Tombés, un album qui s'appelle Ascension. Alors, Regarde les hommes tombés, c'est un groupe nantais qui est né en 2011. Il a été créé à l'initiative du guitariste Jean Jérôme. Alors, ce projet, au départ, il est essentiellement musical. Jean Jérôme sera très vite rejoint par Romain à la batterie, Antoine B à la basse et Antoine M à la seconde guitare. Et puis, enfin, après quelques concerts dans cette configuration instrumentale, le groupe va décider de se mettre en quête d'un chanteur et va confier ce rôle de frontman à Ulrich Wegrich, du groupe Otargos, qui va rester jusqu'en 2014. Ensuite, le micro va être cédé à Thomas, qui est désormais donc le chanteur de Regarde les hommes tombés, un nom qui fait d'ailleurs référence au film du même nom signé par le réalisateur Jacques Audiard. Alors c'est quoi Regarde les hommes tombés, hormis un groupe au nom énigmatique? Eh bien c'est du post-black metal aux influences sludge. Leur musique, elle est lourde, sombre, mélancolique, violente. Les thématiques abordées par le groupe tourne énormément autour de l'humain, de sa capacité à s'autodétruire de par son ego, son avidité de pouvoir, sa pratique de la religion. D'ailleurs, les textes qui sont écrits par un parolier qui s'appelle Enoch, qui est en quelque sorte le sixième membre du groupe, elle s'inspire énormément de références mythologiques et bibliques. Dès ses débuts sur scène, le combo nantais va se faire repérer par le label indépendant Les Acteurs de l'Ombre, qui va lui permettre de sortir en 2013 un premier album éponyme, qui va faire son petit effet, hein, avec un très bel accueil de la part des médias, et puis un premier passage au Hellfest, qui va intervenir peut-être pas la même année, c'est en 2013 hein, qu'on les voit sur la scène du Hellfest. Deux ans plus tard, en 2015, Regarde les hommes tombés, qui a donc entre-temps accueilli Thomas au chant, va sortir un deuxième album qui s'appelle Exil. Alors cette fois, le groupe est monté enregistré à Paris, au studio Sainte-Marthe, avec Francis Cast, l'incontournable maître des lieux. Et résulte de ce travail un deuxième album puissant, très abouti, qui confirme vraiment l'énorme potentiel que laissait entrevoir le premier opus du combo. Donc, après avoir ensuite tourné assez intensément pour le promouvoir, cet album Exil, avec d'ailleurs un deuxième passage au Hellfest en 2017, Regarde les hommes tombés va décider de se poser, de prendre un peu de recul pour revenir encore plus fort avec ce troisième effort studio qui est Ascension, qui est paru donc le 28 février chez Season of Mist, qui est le nouveau label du groupe. Un groupe qui a tout naturellement encore gagné énormément en maturité, mais aussi en solidité. En effet, si la structure d'Ascension, c'est la même que ses deux prédécesseurs, ben l'évolution musicale, elle est évidente, à la fois en termes de compos, mais aussi en termes d'exécution et de technique. Tout au long du disque, le groupe ne cesse de surprendre l'auditeur et de l'emmener vers de nouvelles atmosphères, de nouveaux horizons, avec des textes signés encore une fois par le parolier Enoch. Ascension nous raconte des histoires sombres et torturées, teintées de nombreuses références à l'ésotérisme et à la mythologie. On notera au passage qu'Ascension, c'est le troisième et ultime volet d'un triptyque, donc entamé avec le premier album du groupe. Et puis, sachez enfin que la prod, elle est de nouveau signée Francis Cast. On écoute un extrait tout de suite de cette merveille avec le titre A New Order, alors que je vous propose malheureusement dans une version un peu raccourcie, car elle dure plus de 8 minutes, et bah voilà, j'ai encore des choses à vous diffuser. Du coup, on va la raccourcir un peu, puis je vous laisserai le soin de l'écouter dans son intégralité après l'émission sur Internet. Tout de suite, Regarde les hommes tombés sur l'émission Check Me Load. We'll be right back. regarde les hommes tombés sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre A New Order, extrait du nouvel album Ascension qui est paru le 28 février. Regarde les hommes tombés, groupe de Nantes et fleuron de notre scène black française. Il faut l'avouer, c'est un des groupes les plus aboutis, les qui a un potentiel les plus énormes dans cette esthétique, hein, sur cette scène black française. Et c'est un groupe à suivre de très très près parce que ils peuvent vraiment prétendre à sortir de nos frontières et aller exporter leur musique en Europe, voire même au-delà, à travers le monde. J'ai pas le temps de vous présenter tous les albums que j'avais prévu de vous diffuser aujourd'hui, ça fait rien, on va s'en mettre un petit peu sous le coude pour la semaine prochaine. De toute façon, je savais que j'aurais pas le temps de tout présenter aujourd'hui, c'est pas grave, de toute façon on en reparlera, c'est pas perdu. On va du coup s'intéresser directement à notre rubrique Sortez Cover, et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, eh bien c'est le dieu Lemmy et sa bande de cuirassiers qui seront à l'honneur dans cette rubrique de ce jour, avec la chanson Ace of Spades, reprise par le groupe Body Count, dont le chanteur Ice-T revendique clairement l'influence qu'un groupe comme Motorhead a pu avoir sur leur musique. C'est pour cette raison que Body Count a choisi de rendre hommage à Lemmy en interprétant à sa sauce, mais sans fondamentalement chercher à révolutionner, ce morceau légendaire de Motorhead qu'est Ace of Spades. Parce que oui, Ace of Spades fait partie de ces chansons qui ont construit l'histoire du rock, c'est le titre emblématique de Motorhead s'il en est, un titre que le monde va découvrir le 27 octobre 1980 et qui est dégainé en guise de premier single par Bronze Records, le label du groupe, quelques jours avant la sortie de l'album Ace of Spades, qui lui atterrit dans les bacs le 8 novembre de la même année, donc en 80. D'ailleurs, je pense que pas mal de vous ont en tête la célèbre pochette de l'album, sur laquelle on voit les trois membres du groupe qui posent avec dans un paysage qu'on imagine être le désert, et en fait c'est une photo qui a été réalisée sur un tas de sable dans un quartier de Londres. C'est pour vous dire que déjà à l'époque ils avaient pas Photoshop, mais ils arrivaient quand même à faire des choses formidables. Alors Ace of Spades, le morceau, c'est donc lui qui ouvre les hostilités du mythique album du même nom. La version 45 tours de la chanson, elle va vite connaître un engouement très important, notamment en Angleterre, où elle se classe en bonne place dans les charts. Mais c'est au fil des années et des concerts mémorables de Motorhead que la chanson Ace of Spades, elle va construire sa légende et devenir totalement culte pour tout amateur de rock et de métal qui se respecte. Et puis d'ailleurs, même ceux qui aiment pas spécialement le rock l'ont forcément entendu quelque part, puisque Ace of Spades, elle a été utilisée maintes et maintes fois, que ce soit au cinéma, à la télé, avec beaucoup de séries dans lesquelles on peut l'entendre, et puis aussi dans pas mal de jeux vidéo. Donc c'est une chanson incontournable que tout le monde connaît, que tout le monde a pu entendre au moins une fois dans sa vie. Et outre la chanson, l'album Ace of Spades, il fait partie de cette fameuse liste des 1001 albums qu'il faut avoir écouté une fois dans sa vie. Voilà, je pense que vous en savez assez sur cet hymne du rock composé par Lemmy Kilmister, Eddie Clarke et Phil Taylor, pour pouvoir savourer au mieux la version des Californiens de Body Count, une version qui se trouve sur leur nouvel album, je le rappelle, Carnivore, qui est paru il y a très peu de temps, là, il est tout frais cet album. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Tenez bon, on se donne rendez-vous, je l'espère, vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous, voici tout de suite Body Count qui reprend Ace of Spades.
On every Body Count album, we like to pay homage and tribute to a group that motivated and inspired our sound. On this album, we're sending a shout out to Lemmy, rest in peace from Motorhead.
What you rules, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.